Chapitre 3. La sympathie que Geneviève avait tout d'abord éprouvée pour sa tante devint vite de l'affection. Elle avait si souvent entendu son père l'appeler vieille folle, vieille coquine, qu'en venant à Cordes, elle s'était imaginée qu'elle allait trouver une espèce de mauvaise fée retirée dans une tour lugubre où elle passait son temps à tourmenter ceux qui l'approchaient. Et voilà qu'au contraire, la tour lugubre que son imagination enfantine avait vue terrible, avec ses souterrains noirs, ses murailles vertes et ses corridors sombres, était un beau château gai et clair, entouré de vastes jardins plantés de grands arbres, de taillis ombreux, d'arbustes et de fleurs. Voilà que la mauvaise fée était une bonne fée qui n'avait d'autre souci que de rendre heureux ceux qui l'entouraient et d'aller chercher pour les soulager ceux qui souffraient loin d'elle. Lorsqu'elle avait dû venir à Cordes, elle avait eu la force de cacher ses craintes à sa mère et à Faré, et de ne leur rien dire de ses appréhensions. Mais, au fond du cœur, elle était convaincue qu'elle allait être enfermée dans une prison où elle serait torturée par une ogresse. N'était-elle pas une vieille folle, cette ogresse, une vieille coquine? Sans doute, cette folle, cette coquine qu'elle n'avait jamais vue, ne s'était jusqu'à ce jour manifestée à elle que par des cadeaux. Mais qu'est-ce qu'ils prouvaient, ces cadeaux? Une seule chose, semblait-il, qu'elle voulait la tenter. C'était un appât qu'elle mettait au bout de son hameçon pour attirer la chair fraîche. Elle était donc arrivée très inquiète, malheureuse, non seulement de quitter ceux qu'elle aimait, mais encore pleine d'angoisse à la pensée de ceux qui l'attendaient. Quelle allait être sa vie dans cette prison, auprès de cette folle ou de cette coquine? Assurément, elle ne se serait jamais résignée à cet exil si le désir de tranquilliser Faré et de lui prouver qu'elle était capable des plus durs sacrifices ne l'avait décidée. « Ce sera pour lui, » se disait-elle, en imaginant ce qu'elle aurait à souffrir. Et cette pensée lui donnait du courage. « Il verra comme je l'aime !» Mais tout en se disant « Il verra comme je l'aime », elle se disait aussi « Comment est-elle ?» Car enfin, pour que son père en parlât avec cette hostilité et ce mépris, il fallait bien qu'elle fût une folle et une coquine, et même plus que cela. De là, l'anxiété de son premier regard quand Adélaïde la lui avait montrée derrière la fenêtre. De là aussi, le brusque mouvement de sympathie qui lui avait touché le cœur, quand elle avait vu que cette femme à la physionomie noble et douce, attristée seulement par une longue souffrance, ressemblait si peu à celle qu'elle avait imaginée, d'après ce que son père et ses frères lui avaient dit d'elle. De là encore, sa précaution d'inciser dans sa lettre sur cette sympathie, afin de rassurer sa mère, qui, elle aussi, devait croire à la prison et à l'ogresse, et se désoler à la pensée de ce que sa fille allait avoir à supporter. De là enfin, le soin avec lequel elle avait étudié sa tante et précisé les traits de caractère, d'habitude, de manière d'être, qui pouvaient faire revenir sa mère des craintes qui devaient la tourmenter. Assurément, quant à son impression, elle ajoutait des faits comme celui de la paysanne qui demande une marraine et des mots comme celui du docteur Azéma « C'est une sainte !» Cela devait rassurer sa mère et Ernest, qui n'avaient plus à souffrir que de la séparation. À la vérité, ces détails étaient en contradiction avec ce que son père lui avait toujours dit, et par là, il pouvait peut-être fâcher celui-ci. Mais, d'un autre côté, ne devait-il pas être heureux de voir qu'il s'était trompé, ou bien que mademoiselle de Puy-Laurence n'était plus ce qu'elle avait été autrefois, au temps où il la croyait une folle et une coquine. Bien que la vie qu'elle eût trouvée auprès de sa tante ne ressemblât en rien à celle qu'elle avait imaginée en quittant Paris, et que l'ogresse fût pour elle pleine de tendresse, elle n'en avait pas moins des heures où la séparation pesait sur elle de tout son poids et l'écrasait. Pendant le jour, elle n'avait pas grand temps pour être seule avec elle-même et s'abandonner. Dans la matinée, la messe et la station à la maison de Guillaume depuis Laurence, dans l'après-midi, la musique, les promenades en voiture, les courses aux environs, les visites que sa tante recevait, les lettres de sa mère, l'occupait et la distrayait. Mais le soir, quand elle se trouvait seule dans sa chambre, elle était libre, libre de pensée, d'esprit, de cœur, et de cette liberté, elle en usait pour retourner à Paris. Où était-il en ce moment? Que faisait sa mère? Que faisait Ernest? Bien souvent, ces questions se présentaient à son souvenir dans la journée. mais alors elle les écartait toujours, ne voulant les examiner que dans le recueillement de la solitude, quand elle pourrait se donner à elle entièrement. Aussitôt arrivée dans sa chambre, elle se déshabillait vivement. Puis, après avoir éteint les lumières, elle ouvrait une fenêtre avec précaution et, assise sur une petite chaise, accoudée sur l'appui en fer du balcon, elle restait là, les yeux perdus dans les profondeurs bleues de la nuit et les ombres qui emplissaient le jardin. Sa chambre était exposée au soleil levant, c'est-à-dire que, devant elle, elle avait Paris. Dans la journée, à 200 lieues, par-dessus des collines, des montagnes et des plaines, des rivières et des fleuves, et encore des montagnes et des plaines. Mais dans la nuit, quand l'ombre brouille tout, quand il n'y a plus de distance et que la terre sombre rejoint tout de suite le ciel pâle, il n'était plus qu'à quelques pas que son imagination franchissait et que les roulements des trains qui passaient dans la vallée abrégeaient encore, en lui apportant la vie même de Paris et comme un écho des voix aimées. Elle les entendait, celle de sa mère, celle de Faré, et par le souvenir, elle revivait son ancienne vie, ses longues heures de travail, ses jeux, ses causeries avec la pauvre petite Odile, ses veillées sous la lampe avec sa mère en attendant son père, l'oreille aux écoutes pour se sauver dans sa chambre avant qu'il fût rentré, ses journées du dimanche dans le jardin de la rue Girardon, la balançoire, M. Quick-Quick, les tête-à-tête, les rêveries silencieuses avec Faré, ses espérances quand elle arrivait, ses déceptions quand elle partait, sans qu'il eût rien dit de ce qu'elle attendait. Quelle fatalité dans l'enchaînement des choses! Tant qu'ils n'avaient pas pu s'entretenir de leur amour, ils avaient été réunis, et voilà que, maintenant qu'ils pouvaient se dire et se répéter qu'ils s'aimaient, ils étaient séparés, et séparés pour longtemps peut-être, au moins sans qu'ils pussent savoir quand cette séparation finirait. Que faisait-il à cette heure, tandis qu'elle pensait à lui et qu'elle le cherchait? Ce n'étaient pas les lettres de sa mère qui pouvaient le lui apprendre. À la vérité, dans chacune de ces lettres, il était question de lui, mais il était confondu avec Madame Faré, avec Madame Gesswiller, avec Lutan et Sophie. Pour lui écrire, sa mère employait le même système qu'elle, et c'était par allusion, par insinuation, plus ou moins détournée, qu'elle procédait. Et cela ne lui suffisait pas. Un mot, quand elle aurait voulu des pages, et encore bien souvent un mot qu'il fallait deviner, se demandant si on lui faisait vraiment dire ce qu'il disait. Et rien, pas une ligne de lui, pas une petite fleur séchée, pas une place sur le papier qu'il eût embrassé, où elle eût pu prendre son baiser, comme au temps où il lui embrassait les mains. Si encore sa tante avait reçu le journal d'Ernest, ou même simplement un journal de Paris, elle aurait vu s'il était question de ses pièces, si on les mettait en répétition. Mais le seul journal qui arrivât au château était une petite feuille locale paraissant le samedi et le mercredi. La première fois qu'elle avait pu mettre la main dessus, elle avait manœuvré adroitement pour l'emporter et la lire en cachette. Mais tout ce qu'elle avait trouvé dedans, ça avait été un article et des nouvelles politiques, des faits divers sur ce qui se passait dans le département et beaucoup d'annonces. Mais rien de Paris, du Paris des lettres et du théâtre. Le temps passait, le silence se faisait plus profond et l'on n'entendait plus que le bruit frais de la rivière qui coulait au bout des jardins. Il fallait dormir pour être prête le lendemain matin et ne pas manquer le départ pour la messe. Elle fermait doucement sa fenêtre et s'allait mettre au lit. Mais le sommeil ne lui obéissait pas toujours. Et ce qui, le plus souvent, venait, c'était un mouvement de tristesse nerveuse et de découragement. La fenêtre fermée, la lumière éteinte, dans le noir et le silence de sa chambre, elle se laissait aller au découragement et pleurait sans se retenir. « Oh, maman, maman !» Une nuit que cet appel lui avait échappé plus fort que d'ordinaire peut-être, elle vit s'ouvrir la porte de sa chambre et sa tante, enveloppée de flanelle, un châle de barège sur la tête, les pieds chaussés de gros chaussons de Strasbourg, était venu à son lit, une lumière à la main. « Qu'as-tu, mon enfant ?»«
Rien !»
Mais son visage, baigné de larmes, démentait sa réponse.
« Comment, rien ? Tu viens d'appeler ta maman et tu pleures ? Es-tu malade ?»«
Oh non, ma tante, je ne suis pas du tout malade !»«
Alors tu as du chagrin, et ce que je croyais se trouve vrai ? Car ce n'est pas la première fois que je t'entends appeler ta maman. »
Geneviève eut un mouvement de confusion, mais mademoiselle de Puylaurens lui prit la main affectueusement.
« Il ne faut pas te cacher, mon enfant. Ce n'est pas moi qui te blâmerai de penser à ta mère dont tu es séparée. Je les connais, ces heures où l'on pleure sa maman, car j'ai été comme toi, séparée de la mienne quand j'avais ton âge et que j'étais au couvent. Ce te serait un soulagement, n'est-ce pas, si tu avais son portrait ? Eh bien, demain, tu lui enverras un billet de 100 francs en lui demandant d'aller poser chez un bon photographe. J'espère que ton père ne lui prendra pas ce billet. » Mais si le portrait n'arrivait pas, nous emploierions un autre moyen. Quand tu auras ta maman, là, en face de toi, cela te fera du bien. Maintenant, dors. » Et mademoiselle de Puylaurens en alla, en serrant ses flanelles contre elle et en toussant. À la porte, elle se retourna. « Bonne nuit, mon enfant !»